Jésus bâtit son Église et il ne le fait qu'avec la parole. Il n'a pas d'autre moyen que de construire son Église à l'échelle universelle et il ne peut le faire qu'avec la parole. Mais quand on parle de l'Église, les amis, on n'est pas en train de parler du local qu'on a loué rue ou boulevard, je ne sais pas ce que c'est, Étienne d'Orve, avenue même. Ah tiens, tu vois. C'est pas cela. Ça n'est pas de ce genre d'église dont on parle. Jésus n'est pas en train de construire des bâtiments. Ce qui veut dire que la seule manière que Jésus a de nous bâtir, nous qui sommes des pierres vivantes, qui sommes nés de nouveau, qui constituons son église, la seule manière qu'il a de nous faire grandir, c'est uniquement par sa parole. Il n'a pas d'autre moyen. Ce qui veut dire que la parole devrait être le bien le plus précieux. Le plus précieux que, après lequel nous allions. Et vraiment, la parole, on devrait tout faire pour l'avoir. Ce qui veut dire qu'on devrait tout faire pour ne pas la laisser s'échapper, pour ne pas s'en priver. Et aujourd'hui, je vois, j'entends beaucoup de raisons pour se couper de la parole. J'ai un anniversaire, ma voiture est en panne, mais je n'ai pas pris le soin peut-être de contacter quelqu'un pour venir. Oh, il pleut. Oh, il fait beau. Oh, je me suis couché tard. Oh, je me suis couché trop tôt. Oh, mais et quelquefois, il est bon de s'arrêter sur ce que nous sommes en train de dire et de penser. Si vraiment nous disons « je suis né de nouveau » et le Seigneur n'a pas d'autres matériaux pour bâtir ma vie qui est imbriquée dans l'Église universelle, ma question est, à quel point j'attache de l'importance à sa parole? Tu dis, oui, tu sais, pasteur, c'est pas grave, aujourd'hui on a Internet et on peut réécouter. Il y a une chose que je sais, c'est que Internet ne rassemblera jamais, quelqu'un dit jamais, jamais de jamais de jamais de jamais, l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée des chrétiens réunis. Vous savez ce qui m'étonne? C'est dans sa préscience, dans son omniscience. Par exemple, Dieu, jusque dans le livre, le dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, qui est aussi appelé le livre de l'Apocalypse. Dans ce dernier livre, il est question que Dieu va ouvrir des livres. Pourtant, il y a tellement de mots aujourd'hui qui pourraient remplacer le mot livre, ne serait-ce que celui que nous connaissons aujourd'hui, qui est le mot tablette. Sans compter que dans 3 ans d'ici, on nous parlera d'un autre support pour l'information qui sera autre chose. Enfin, je dis 3 ans, j'en sais rien. Mais je veux dire, ça, on est passé des parchemins au livre, mais Dieu s'est arrêté sur le livre. Il n'est pas allé jusqu'à la tablette et il n'a même pas encore parlé de ce qu'il sait qui remplacera la tablette. Alors, ça, ce n'est pas mon message, hein, mais je vais vous encourager. Faites en sorte d'attacher un tel respect à la parole que dans notre manière de nous présenter devant Dieu, dans notre manière d'entendre la parole de Dieu, Dieu soit prêt à nous donner un élément de révélation qui va nous éclairer, que ce soit sur notre santé, que ce soit sur nos finances, que ce soit sur le mandat qu'il a pour notre vie, quoi que ce soit peut-être dans un domaine relationnel ou autre. Mais Dieu a quelque chose à nous dire et Dieu est celui qui récompense l'effort que l'on fait pour s'assembler. On peut dire, tu sais, pasteur, j'entends cela. Oui, mais il faut qu'on parte plus tôt parce qu'on a un anniversaire. D'accord ? Bien sûr, ça... Mais quelquefois, je me pose des questions quand des familles entières sont chrétiennes. Des familles entières qui sont en train de dire aux enfants, eh bien, tu sais, nous, nous aimons Dieu. Là, je vous dis ce que j'en pense, hein, parce que je l'entends, et qui disent, eh bien, on veut que nos enfants connaissent et suivent le Seigneur. Est-ce que vous croyez que les enfants vont connaître et suivre le Seigneur parce qu'ils nous voient tous les dimanches au culte? Non. Vous savez, quand est-ce que vos enfants vont se poser des questions sur la réalité de Jésus? Quand ils vont vous voir faire des choix qui démontrent ce que vous croyez. Vous savez, une famille chrétienne qui célèbre un anniversaire peut très bien dire, nous sommes tous chrétiens, il est entendu qu'on va s'arranger pour d'abord honorer Dieu et ensuite célébrer ce moment ensemble. Et quand on explique aux enfants qui disent, maman, je commence à avoir faim, on dit, tu sais quoi, je vais te donner un petit truc en attendant, mais on va d'abord célébrer Dieu. C'est là que vos enfants se rendent compte de ce qui compte vraiment pour vous. C'est pas parce qu'ils nous voient tous les dimanches à l'église. Ça fait partie, mais ça n'est pas assez. C'est parce qu'ils nous voient faire des choix. Quand ils entendent les parents qui sont en train de dire, ah, tu sais, écoute, on devait mettre de l'argent pour partir en vacances, mais si on le fait, on ne peut pas donner notre dîme. Et que les enfants entendent le père, la mère qui dit, tu sais quoi, tu vas passer avant. Il n'est pas question qu'on parte en vacances avec son argent. Il pourvoira. Nous, on va faire notre part. Et Dieu pourvoira. Là, les enfants savent ce qui compte vraiment. Et là, ils comprennent pourquoi tous les dimanches, ils nous voient à l'église. Et les choix, c'est dans la pratique. Vous savez, Rick Renner. a expliqué sur Matthieu, je crois que c'est chapitre 5, 7, quand il est dit « Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas simplement » ça c'est Jacques, « Ne vous bornez pas simplement à l'écouter » mais dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur donne l'exemple du fait de mettre en pratique la parole qu'on écoute. Et quand on met en pratique la parole que l'on écoute, eh bien, notre vie est fondée sur le roc, est fondée sur la certitude. Et dit, il y a une différence entre le fait d'écouter la parole. Vous savez quoi? Écoutez, j'ai un superbe message. J'ai des images à vous montrer, mais c'est trop dans mon cœur. Alors, écoutez, le Saint-Esprit, il va m'aider avec ce coup-là, mais la suite du message sur les générations qui est magnifique. Franchement, hier, en continuant à préparer ce message, en étoffant encore plus cette deuxième partie, vraiment, j'ai trouvé des choses qui étaient très intéressantes. Mais quand je dis que Jésus est là pour bâtir son Église, je ne suis pas en train de dire qu'il est là pour juste tchatcher. Ce qui compte, c'est qu'un pasteur, un homme, une femme de Dieu, nous donne la nourriture qui est sur le cœur de Jésus. Et je peux vous dire ce qui est sur le cœur de Jésus. C'est ce que nous faisons avec ce que nous entendons. On va lire ce passage en Matthieu chapitre 7. Et on le connaît. Mais vous savez, nous ne venons pas écouter la parole parce qu'on n'a rien à faire le dimanche matin. Nous ne venons pas écouter la parole parce que ça fait partie d'une tradition. Nous venons écouter la parole parce que nous croyons que la personne qui va se tenir derrière ce pupitre, comme derrière n'importe quel pupitre de ce qui s'appelle Église, Dieu va nous parler. Le souverain berger va parler au berger, au prédicateur, et par là, va me parler. Cette parole-là, qui est sur le cœur de Jésus, sur le cœur du grand berger, Cette parole-là, Dieu est en train, le Seigneur Jésus est en train de penser à quelque chose en ce moment, nous concernant tous. Ça n'est pas pour rien si ce matin nous sommes ici. Ça n'est pas pour rien si ce matin j'ai quelque chose sur mon cœur que je n'arriverai pas. Vous savez, je peux faire du forcing, je peux faire comme n'importe qui. Le Seigneur a dit à certains, ne va pas dans telle rue cette semaine. Ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Le Seigneur a dit à d'autres, ne dis pas cela. Le Seigneur a dit à encore d'autres, dis cela. Et nous faisons ce que nous voulons. Ce matin, nous avons accepté de venir parce que nous croyons que Jésus a une parole. Une parole. Pas qui va me faire plaisir. Tant mieux si elle me fait plaisir, mais une parole qui va me transmettre la vie. Il y a des plaisirs qui mènent à la mort. Mais moi, ce que je veux, c'est tout ce qui concerne la vie. Tout ce qui concerne la vie. Et Jésus a dit que l'homme, l'être humain, tout être humain, ne vivra pas de pain seulement. Il ne vivra pas du repas que vous allez prendre, que nous allons prendre tout à l'heure. Mais la vraie vie va venir du fait que nous recevions une parole de Dieu. Pas une parole prise au hasard, trou pique-nique douille, paf, hop, c'est ça, voilà. C'est pas ça. Certains, ils savent même plus ce que ça veut dire, cette expression. Hein. Génération Alpha, par exemple, tiens. Mais il est dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce que nous avons besoin maintenant, ce n'est pas d'un message qui est préparé avec amour, parce que quand même il y a une bonne dose là, hein, et d'une parole qui pèse sur le cœur de Dieu. Parce que vous et moi, nous aurons tout le temps de célébrer tout ce que nous voulons au ciel pour l'éternité aussi longtemps qu'on veut. En revanche, nos jours sur cette terre sont comptés et ce que nous laissons à nos enfants, on ne pourra le faire, c'est doser ce que l'on peut faire. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 28, il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est-à-dire, quiconque veut dire tout le monde et n'importe qui, c'est-à-dire moi. Que je dis et les met en pratique, ce qui veut dire que entendre ne suffit pas. Il y a des gens qui passent leur temps à entendre la parole, dans la salle de bain, dans la voiture, en allant au travail, en faisant du sport, et moi j'en suis. J'écoute la parole, j'optimise les opportunités qui me sont présentées d'écouter la parole. Parce qu'elle est complète, cette parole. Il nous faudra toute l'éternité pour découvrir ce que contient cette parole. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a à connaître se trouve dans ce livre-là. En revanche, tout ce qu'il y a à connaître pour notre vie est largement suffisant dans ce livre. Il y a suffisamment d'informations dans ce livre pour que toi et moi remplissions notre mandat, trouvions la raison de notre destinée. Et le Seigneur, dès les premiers mots, nous dit, ça ne suffit pas que vous entendiez la parole. Ça ne suffit pas si nous n'avons... ou bien on l'écoute par curiosité, ou on l'écoute en disant, « Waouh, c'est celle de Dieu. Ça n'est pas celle de M. Estrosi, ça n'est pas celle de M. Macron, ça n'est pas celle de Marie-Hélène Moulin, ça n'est pas celle de Poutine, de Donald Trump. C'est la parole de Dieu. » Et le Seigneur dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et les mettre en pratique sera semblable à un homme prudent. Ah, c'est énorme. De faire preuve de prudence dans cette vie. De ne pas prendre des décisions en fonction des circonstances. De ne pas prendre des décisions à la hâte. De ne pas prendre des décisions uniquement qui reposent sur l'humeur du jour, sur nos émotions. Il sera semblable à un homme prudent. Est-ce que je m'adresse à des chrétiens ce matin ? Il me semble connaître à peu près tout le monde et je dirais que oui, j'ai devant moi même des familles chrétiennes. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc étant la parole que Jésus a dite. Et le Seigneur nous a dit, dans le livre de Jean, il dit 8:32, vous connaîtrez la vérité. Mais comment connaît-on la vérité ? À travers la parole. À travers la parole qu'il nous a écrite, à travers la parole qu'il nous parle, même quand nous passons par toutes sortes d'expériences. Pourquoi est-ce qu'une expérience nous enseigne ? Parce qu'elle est accompagnée d'une parole. Et le Seigneur nous dit, quiconque mettra les paroles qu'il nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et Jésus a dit, sa parole c'est la vérité. Jésus a dit lui-même, je suis la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre vérité. Jésus n'a pas dit, je suis une vérité. Il a dit, je suis la vérité. Ma question, à quel point as-tu besoin de la vérité concernant ta santé ? À quel point as-tu besoin de la vérité concernant le mois prochain ? À quel point as-tu besoin de la vérité pour décider où habiter ? À quel point as-tu besoin de la vérité pour supporter ton mari, ta femme ? Parce que certains le prennent comme ça. À quel point as-tu besoin de la vérité ? Et dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'Église de Jésus-Christ est appelée l'Église glorieuse. Jésus revient pour une Église glorieuse. Ce que nous sommes tous, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons été instantanément recréés dans notre esprit. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous appartenons à une autre race. Et Jésus dit qu'il revient pour une église glorieuse. Une église non seulement qui est glorieuse dans son esprit, mais une église qui porte la gloire de Dieu dans sa manière de faire. Et comment est-ce que nous avons cela ? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que l'on connaît, c'est celle-là qui nous affranchira. Vous savez, Jésus, ce qu'il a envie de voir, il rêve de voir les degrés de liberté les plus hauts dans son Église, sur terre. Cette liberté glorieuse, c'est bien, on va l'expérimenter au ciel. Vous savez, personne n'aura... Bon, bien sûr, on va se réjouir, etc. Mais c'est ici-bas qu'on peut mesurer à quel point nous sommes libres. C'est ici-bas qu'Abraham a mesuré à quel point il était libre vis-à-vis de son fils et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des démons qui l'empêchaient d'obéir à Dieu quand il lui a été proposé de sacrifier son fils. Là, il a mesuré à quel point il était libre. Il ne le savait pas avant d'obéir. Et quand la parole de Dieu vient à nous, eh bien si nous la mettons en pratique, c'est l'occasion, en obéissant, de mesurer à quel point nous sommes libres. Mais maintenant, revenons aux enfants. Comment vont-ils avoir accès à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu ? En nous voyant la démontrer ? Et encore une fois, les enfants ne vont pas être impressionnés en vous voyant ou en nous voyant aller à l'église tous les dimanches matins. Ils nous voient aller tous les jours au travail. Ils nous voient aller tous les X temps au cours de tennis ou quoi que ce soit que vous ayez comme loisir. Ça n'impressionne pas, ça fait partie de l'emploi du temps, ça fait partie du style de vie. Mais devant un choix difficile, mettre la parole de Dieu, là nous démontrons ce qui est important pour nous. Le Seigneur dit que celui qui met la parole de Dieu en pratique, la parole qu'il a entendue, et je vous rappelle que nous venons pour cela. Nous venons pour cela. Et nous avons tous expérimenté des changements dans notre vie uniquement à cause de ce que nous avons entendu. C'est vrai ou pas? On ne vit pas ensemble, que je sache. Et pourtant, uniquement avec la parole, nous avons changé. Et le Seigneur dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur la révélation de la parole qu'il a pris le temps d'entendre. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Vous savez, l'autre fois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un programme, j'en sais rien. Et ça se passait en Russie. Ah oui, c'était un programme sur la Sibérie, sur des villes particulières qu'il y a en Sibérie et en Russie. Et ils ont montré une tempête qui avait soufflé sur une ville. Il y avait un bâtiment qui était, je ne sais pas, peut-être 10 étages. Et la force du vent avait soulevé le toit de tuiles. Inutile de vous dire que des plaques de métal qui volent dans la rue, ça peut décapiter, trancher un corps en deux. C'est d'une extrême violence parce que c'est coupant. Et la Bible nous dit ici qu'il y a plusieurs degrés d'adversité. Il y a la pluie, il y a, bon, la pluie, plus ou moins, on peut gérer, mais à un moment, on ne peut plus gérer. Ça s'appelle une inondation. Il y a des torrents, bon, ceux qui sont loin des torrents, ils ne sont pas trop concernés, mais il peut y avoir une telle violence quand des torrents débordent. Et puis, il y a le vent qui souffle, les circonstances qui s'acharnent contre quelqu'un. À travers toutes ces circonstances négatives, Dieu veut que nous restions libres. À travers toutes ces circonstances négatives, Dieu souhaiterait que nous fassions preuve de prudence. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas des décisions à la hâte, à la va-vite, sous la pression, par la peur, par la défaite, même par le succès. Il veut que nous restions autonomes, c'est-à-dire dépendants de lui, clairs, libres, et que nous le démontrions aux enfants. Mais pour cela, ça ne se fait pas en entendant la parole, ça se fait en la mettant en pratique. Vous savez, Dieu s'arrange pour que la parole de Dieu soit prêchée partout sur cette terre. Les Juifs la prêchent, les chrétiens la prêchent. Nous, nous prêchons jusqu'au Messie qui est arrivé, le Sauveur, le pardon a déjà eu lieu. Il s'arrange pour que la parole soit prêchée. On peut l'entendre le dimanche matin, on peut l'entendre dans les études bibliques, on peut l'entendre sur Internet, on peut l'entendre quand on veut. Aujourd'hui, littéralement, jour et nuit, quand on veut. Mais ce n'est pas parce qu'on l'entend qu'on la comprend. Qui donne la révélation? Qui ouvre les Écritures pour qu'on comprenne ce qui nous est dit? Qui ouvre les Écritures? Celui qui lit dans les cœurs. C'est-à-dire qu'on peut entendre la parole de Dieu, dire « moi je n'en ai pas besoin ». En général, ce n'est pas quelque chose que l'on crie derrière un micro. On n'arrive pas dans une réunion, on n'arrive pas au culte en disant « bon, alors, écoutez, je suis là, voilà, mais je vous préviens tout de suite, moi, je n'ai pas besoin. » C'est quelque chose qui est dans le secret du cœur. Et Dieu qui lit dans les secrets du cœur répond à la décision que nous prenons. C'est-à-dire que quand nous entendons la parole de Dieu, si nous n'avons aucune intention d'en tenir compte, aucune intention de la recevoir, aucune intention de lui donner la priorité, nous n'avons pas à nous faire de soucis. Dieu va nous respecter. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune révélation. La même chose, quelqu'un ne veut pas être touché par Dieu dans une assemblée. La présence de Dieu est ici, la présence de Dieu est dans la rue, la présence de Dieu est avec les prisonniers, la présence de Dieu est à la plage, Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas auprès de tous. C'est-à-dire que nous pouvons être dans une assemblée, par exemple, le lieu où on s'attend à ce que Dieu se manifeste. Mais si nous nous présentons devant lui, c'est-à-dire intentionnellement, en ayant conscience de lui, en disant, bon, ben voilà, je vais à l'église, je sais que Dieu est là, mais franchement, d'accord. Dieu ne se manifestera pas à cette personne-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je ne sais pas moi, une assemblée de 30 000 personnes. Tout le monde est conscient de Dieu. Tout le monde ressent la présence de Dieu. Tout le monde a cette parfaite conscience. Oh, Dieu est là. Et il y en a une qui se sent éloignée de Dieu. Il y en a une qui dit, oh là là, je m'ennuie ici. Pourquoi? Parce que Dieu te respecte. Quand nous venons pour entendre la parole de Dieu et que nous venons par tradition ou que nous disons, ok, allez, combien de temps ça va durer? Vite, j'ai un poulet sur le feu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous respecte. C'est-à-dire que Dieu, oui, est Dieu, mais notre attitude, mes amis, nous sommes l'Église du 21e siècle. L'autre fois, j'entendais ce qui a à voir avec 17 objectifs qui sont pris à l'échelle nationale, globale. Pour amener les sociétés dans une direction. Vous savez, qui a regardé l'Eurovision hier? Enfin, ça n'a pas d'importance, je regarde, peu importe, mais je suis en train de cocher des cases. Hein. D'habitude, c'est en général, je ne reste même pas jusqu'à la fin, je regarde la bombe. Mais là, c'était en Israël, et puis le fait de regarder, pour moi, c'est une manière de dire « je m'intéresse ». Bon, bref. Mais je peux vous dire que dans cet événement de l'Eurovision, il y avait tant de ces objectifs qui étaient accomplis. Maintenant, le Seigneur dit « quiconque réfléchissons ensemble. Il y a quand même, la Bible nous dit, il y a des foules qui ont suivi Jésus. Qui ont entendu Jésus, pardon. Il n'y a pas vraiment des foules qui l'ont servi. Il n'y a pas des foules qui l'ont suivi de près. Vous êtes d'accord? Franchement, quand on pense aux foules qui l'ont suivi, par exemple la foule qui était... La Bible nous parle quand même qu'à un moment, il y avait 5000 femmes et enfants. Non, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait à peu près 15, 20, disons 30 000 personnes. On est au Moyen-Orient. Au moins 30 000 personnes. Moi, je ne vois pas dans les Écritures qu'il y a 30 000 personnes qui ont eu une vie tellement transformée qu'ils l'ont servi après. La preuve, c'est qu'ils l'ont crucifié. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont venues pour entendre uniquement ce qu'elles voulaient. La plupart, c'était la guérison. Alors, sachez que je comprends que l'heure tourne et que je ne retiens personne. Si vous avez besoin de partir, écoutez, vous avez peut-être un rendez-vous, n'hésitez pas. Hein. Je ne suis pas en train de prêcher ce que je dis parce que je veux que... Je ne suis pas la police. Je suis juste en train de vous dire ce qui est sur mon cœur. Et si c'est sur mon cœur, c'est sur celui du Seigneur. Et le Seigneur veut que quand la pluie, quand le vent, quand les torrents, quand les éléments se déchaînent contre nous, le Seigneur veut que nous restions libres. Que nous restions dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Que nous vivions avec une telle prudence que notre vie, malgré l'adversité, continue à prospérer. Et il est dit, verset 25b, « Et cette maison-là qui était fondée sur la révélation de la parole, elle n'est point tombée. » Elle n'a pas succombé. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans cette maison-là n'ont pas changé le cours de leur vie parce que c'était trop difficile. C'est-à-dire que les gens qui avaient entendu la parole de Dieu, qui apparemment aimaient Dieu, n'ont pas arrêté de marcher avec Dieu à cause des circonstances négatives. Ces gens sont restés fermement connectés, sont restés fidèles à ce qu'ils savaient de Dieu et ont continué à pratiquer ce qu'ils savaient être la volonté de Dieu pour eux. Ils ont continué à la pratiquer. Résultat, la Bible dit que cette maison n'est pas tombée. Cette maison n'est pas tombée. Sous la maladie, quand il y a eu une épidémie. Cette maison n'a pas coulé financièrement quand l'économie a tombé. Cette maison est restée ensemble quand la division a sévi. Voyez-vous, c'est la réalité sur cette terre, en tant que chrétien, n'est pas que nous vivons le ciel ici-bas, au niveau des circonstances extérieures. Mais le ciel est déjà en nous. Nous avons déjà la vie et la nature de Dieu en nous. Et quand les circonstances externes font pression contre nous, nous choisissons la vie. Vous savez, ça doit être quelque chose. Moi, j'en suis encore loin, comme d'après ce que je vois ici, tout le monde. Mais ça doit être quelque chose d'arriver à la fin de sa vie de tenir debout encore dans le Seigneur, ça veut dire que cette personne peut dire j'ai vaincu. Quand quelqu'un arrive encore frais devant le Seigneur, encore bouillant pour le Seigneur, plein de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, mettant la parole de Dieu en pratique au fur et à mesure qu'il le comprend, et le moment est venu de passer dans l'éternité, cette personne peut dire, j'ai vaincu. J'ai appris à vaincre en pratiquant la parole. Au lieu que le moment soit venu de passer dans l'éternité, de se faire tout petit en disant, ma maison est tombée. C'est-à-dire que toutes les circonstances, je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne dis pas ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne réagis pas comme Dieu m'a dit. J'ai pris des décisions complètement ahurissantes dans la vie. Je me suis trompée 1000 fois. Je me suis emportée. J'ai pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, voilà, j'ai passé, 96 ans sur terre. Et franchement, il n'y a même pas de trace de ce que j'ai fait. Il y a un anniversaire à côté. Et le Seigneur dit, cette maison, elle n'est point tombée. C'est-à-dire que les gens ont vaincu. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, je dis souvent aux parents, quand je m'adresse à l'église, à l'auditoire qui est devant moi, que ce soit ici ou ailleurs, quand je prêche à l'extérieur, je m'adresse aux enfants. Ça n'est jamais seulement pour les gens qui sont devant moi que je prêche, mais pour les plus jeunes, pour les enfants. Et le Seigneur dit qu'il est possible de vaincre toutes les adversités qui se présentent à nous. Et c'est ce que les enfants veulent voir. À nouveau, c'est bien qu'ils aillent à l'église. Vous savez, ces enfants-là, avec ce qu'ils entendent de l'autre côté, dans la pièce d'à côté, je peux vous garantir qu'il y a un sceau de révélation qui est écrit, qui est posé, qui est gravé dans leur cœur. Ils s'en rappelleront plus tard, mais ils se rappelleront aussi ce qu'ils nous ont vu pratiquer. Il est dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis, voilà, une question, entendre. Et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire que quand le Seigneur nous donne d'entendre quelque chose et nous donne de comprendre quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous sommes en mesure de pratiquer. Sinon, on n'a pas la révélation. Ce serait horrible que nous comprenions ce que nous avons à faire, et nous sommes tous à différents degrés d'expérience en Dieu. Donc nous, de ce message, nous allons tous comprendre quelque chose de différent, en fonction de ce que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de notre cœur. Tous nous comprenons quelque chose de différent, avec ce même verset. Mais la révélation est en fonction de notre maturité spirituelle et de notre désir de savoir et de mettre en pratique. Donc il est dit, celui qui entend, et qui ne met pas en pratique, c'est-à-dire, vous réalisez, c'est un choix. Le fait que la maison de quelqu'un tombe, le fait que quelqu'un connaisse des échecs dans sa vie, ne dépend pas de la révélation qu'il a entendue, mais de ce qu'il en a fait. Parce que d'après ce verset, n'importe quelle adversité, nous sommes équipés. C'est-à-dire qu'en temps d'adversité, Dieu nous donnera toujours une parole pour surmonter cette adversité. Nous ne serons jamais devant un problème où Dieu dit... J'ai rien à te dire. Désolée, mais là, manque d'inspiration. Et là, on pourra dire, tu sais, Seigneur, quand on se présente devant Dieu, on pourra dire, écoute, voilà, Ah, j'ai loupé le coche, là. J'ai pris des mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce que bah, tu n'avais rien à me dire. Aucune opinion sur la question. Cette parole de Dieu, à quel point est-ce qu'elle a de l'importance pour moi ? À quel point ? Donc à chaque fois que nous avons une adversité, à chaque fois que nous avons un problème, à chaque fois nous pouvons avoir une parole de Dieu et en la mettant en pratique, nous sommes équipés pour vaincre. Parce que la Bible dit que nous sommes des vainqueurs. En revanche, si on entend la parole et on ne la met pas en pratique, vous savez, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Le diable, lui, il nous montre quelque chose en disant, tu vois, voilà ce que tu pourrais avoir. Et peut-être que Dieu dit, oui, c'est bon, voilà, peut-être ce que tu pourras avoir. Ça peut être n'importe quoi, quoi que ce soit que l'on ait besoin en tant qu'être humain. Mais le diable, lui, ce qu'il voudrait, c'est que l'on fasse des courts-circuits, c'est que l'on fasse des compromis. C'est-à-dire que ne courons pas, n'essayons pas de fabriquer les promesses de Dieu. Laissons Dieu réaliser ses promesses dans notre vie. Et le diable dit non, oh là, ça fait trop longtemps que tu attends. Non, ça fait trop longtemps. Et après tout, tu as le droit d'avoir ça toi aussi. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision. Vous savez, je ne sais pas si vous... Il y a eu plein de paroles de sagesse dans ce message-là. Plein de paroles de sagesse. Mais avoir les choses à la manière de Dieu. Parce qu'il y a une parole qu'il nous a donnée et que nous avons mise en pratique. Ça, c'est autre chose. Celui qui ne met pas la parole, et nous avons le droit. Qu'est-ce que j'aime cette liberté ? Nous avons le droit d'entendre la parole. D'abord, ou ne pas l'entendre. On aurait pu rester au lit. Hein. Ou alors aller se promener ou aux champignons, vu la pluie qui tombe. Hey, je suis contente pour ça. Tant que bretonne, je suis contente. Ben oui. Chacun sa bénédiction. Ça arrose, ben oui, justement. Nous avons le droit d'entendre, de ne pas entendre. Et après, quand nous avons entendu, nous avons le droit de mettre en pratique ou de ne pas mettre en pratique. Même les enfants ont le droit de ne pas mettre en pratique quand ils sont suffisamment grands. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais la Bible dit, tu mets en pratique, tu vaincras n'importe quelle adversité, parce que Dieu te dit, je te garantis que je te donnerai une promesse, une parole qui sera à la hauteur de l'adversité de manière à ce que tu puisses la vaincre si tu en tiens compte de cette parole. Maintenant, si tu n'en veux pas, tu ne l'auras pas. Mais si je te l'ai donné et que ça ne t'a pas fait plaisir d'entendre cette parole, alors le jour où l'adversité vient, tu tomberas. Et vous et moi ne savons pas ce que cela veut dire tomber au futur. Parce que nous n'imaginons pas les adversités qui peuvent venir contre nous. Les adversités, les problèmes, c'est bon pour les autres, hein. Les maladies, c'est bon pour les autres. Les problèmes financiers, c'est bon pour les autres. Les problèmes de couple, c'est bon pour les autres. Nous, voilà, ça va bien en ce moment. Donc, et le Seigneur dit, le Seigneur est fidèle. Vous comprenez ? C'est pas simplement qu'il est un Dieu fidèle, mais c'est un Père. Et pour chaque problème, le Seigneur a une parole. Mais c'est à nous de choisir Est-ce que nous allons prendre le temps de l'écouter? Et ensuite, est-ce que nous allons prendre le temps de mettre en pratique? Tu dis, oh, tu sais, pasteur, ouais. Ben, moi, justement, je me rends compte que je n'ai pas fait preuve de prudence. Eh bien, aujourd'hui, on peut décider que les choses vont changer. Dieu ne nous donne pas un futur en fonction de notre passé. Dieu nous donne un futur en fonction de son rêve. Notre destinée, elle est déjà écrite dans les cieux. Et il n'est jamais trop tard pour que le Seigneur soit rendu capable de nous faire changer de rail pour nous mettre sur les rails de sa destinée à lui. Il n'est jamais trop tard. Ça n'est pas lui qui prend la décision. C'est nous. C'est moi. C'est toi. Eh bien, dans cette ambiance sobre, une parole de Dieu peut changer notre vie. Et cette parole de Dieu-là, elle ne nous vient pas que dans la dernière partie d'un culte. Qui a déjà reçu une parole de Dieu parce que Dieu a illuminé une parole que nous chantions? Je répète ma question. Qui a déjà reçu une parole de Dieu grâce à une strophe que nous chantions? Qui est déjà rentré dans la salle découragé, a commencé à chanter, et puis d'un coup, a une lumière sur une parole en disant, tu sais quoi, ça c'est vrai ce que je suis en train de chanter là. Oh, a laissé cette lumière rentrer dans son âme et est sortie différemment. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu parle, ça n'est pas à 11 heures le matin. Dis à ton voisin, Dieu te parle avant 11 heures le matin. En général, c'est le moment où on va commencer à prêcher. Non, dis à ton voisin et dis-le avec un sourire, s'il te plaît. Allez. Dieu veut te parler à 10h05, à 10h35. Dis à ton autre voisin, Dieu veut te parler à 11h moins le quart. Dis à ton voisin, il y en a qui me regardent et qui ne disent pas. Dis à ton voisin, allez. Est-ce que vous avez compris mon message? Il y avait une petite subtilité là-dedans. Hein? Précise, me dit le pasteur Marc. Ce qui veut dire que quand nous disons « Seigneur, je vais te consacrer ce culte », à partir du moment où nous avons décidé cela, pendant que nous sommes en train de nous préparer pour venir, Dieu a quelque chose à nous dire. Vous n'imaginez pas tout ce que Dieu me dit. Parce que ce que je suis en train de dire, là, j'étais déjà en train d'en parler au Seigneur, parce que j'étais contrariée. Et je me suis rendu compte, arrivé ici, que c'était lui qui était contrarié. Et que c'est parce qu'il était contrarié que j'étais contrariée d'être contrariée. Donc la meilleure manière pour moi de m'alléger le cœur, c'est de quoi? Ben, c'est de vous dire la contrariété du Seigneur. Je m'en débarrasse, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on a décidé de rendre un culte à Dieu, en tant que nous faisons partie d'une race nouvelle, chrétien né de nouveau, alors ça veut dire que pendant que je me prépare, Dieu me parle. Certains disent, oh, c'est Dieu ne me parle pas pendant que je suis en train de faire mon brushing. Déjà, il faut en faire un, mais... Ben, si je vais à l'église uniquement par tradition, il ne va rien dire. Et puis ensuite, pendant qu'on est dans sa voiture, on est en train de penser à ce culte-là. Et tu nous parles. pendant la louange, on est arrivé à l'heure. C'est un signe de respect envers Dieu. Je répète, c'est une manière d'honorer Dieu. Et il nous parle. Vous savez pourquoi il y en a qui repartent d'un culte et Dieu ne leur a rien dit ? Ce n'est pas parce que le prédicateur était mauvais. Surtout ici, il n'y a que des bons. Hein. Amen. Il n'y a que des prédicateurs ouins ici. Hein. Donc Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Et comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu la voix de Dieu ? Il y a une raison, il faut se poser des questions. Comment se fait-il qu'on ne soit pas différent, on n'ait pas changé en 6 mois ? Comment se fait-il ? Donc ne vous en prenez pas à moi. Vous avez compris comment ça marche ? Ce n'était pas mon idée. Moi, je suis venue préparer avec un autre message. Mais si vraiment je suis honnête vis-à-vis de ce que j'ai dans le cœur, je n'ai pas d'onction pour vous parler du message que j'avais préparé. Ce qui veut dire que si j'avais fait du forcing, juste parce que je vais vous dire ce qui a été préparé et j'ai un programme et on ne va pas changer et ça m'ennuie de revenir sur le sujet plus tard, c'est politique. Et aucun de nous n'aurait été changé. Parce que la seule chose qui va vous nourrir, ce n'est pas d'entendre des belles choses ou des choses nouvelles, c'est d'entendre une parole de vie. Une parole qui est ointe et une parole qui donne la vie. Une parole qui vient de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, merci de m'avoir permis de libérer mon cœur. Mais Seigneur, j'entends moi aussi et je suis la première à entendre ce que tu dis. Et Seigneur, s'il y avait des domaines dans ma vie où je ne pratiquais pas ce que tu me dis, je te demande de me le montrer. Je te remercie, Père, parce que ta parole, Seigneur, quand nous la mettons en pratique, nous permet de mener cette vie glorieuse dans la liberté et d'être véritablement un exemple de ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ sur terre, un exemple pour les plus jeunes, pour les enfants. Je te remercie, mon Dieu. Seigneur, je décide, une fois de plus, de ne rien permettre de se mettre comme obstacle entre moi et la parole. Je ne permets pas cela, parce qu'elle est trop précieuse à mes yeux. J'en ai trop besoin. Merci, mon Dieu, de ce que ces paroles que tu nous as dites ce matin, nous les gardons dans notre cœur. Et nous sommes prudents pour le reste de nos jours. Au nom de Jésus, je t'en remercie. Amen.